France Internationale, 7h à Paris, les 6h à Libreville, 5h en temps universel.
RFI Matin.
RFI Matin, ça commence avec votre journal. Martin Guez, bonjour.
Bonjour Nemo, bonjour à toutes et à tous.
Week-end d'élection au Gabon, hier en Équateur aujourd'hui.
Les Gabonais massivement mobilisés, 87% de participation selon le ministère de l'Intérieur. Et des résultats déjà attendus à la mi-journée. Élection présidentielle également en Équateur. Le président sortant Daniel Noboa oppose à sa rivale de gauche, Luisa Gonzalez. Le second tour s'annonce très serré dans un pays en crise économique et sécuritaire.
En Europe, c'est un week-end de manifestations.
Mobilisation de soutien au président Vučić en Serbie. Manifestation de défense de l'état de droit en France après les charges de l'extrême droite contre la justice. Nous serons aussi en Islande. C'est assez, dit la baleine. Pas de pêche à la baleine dans le pays pour la deuxième année consécutive. Une bonne nouvelle pour les défenseurs de l'environnement qui restent toutefois vigilants. Enfin, Zion cartonne en salle en France, un film en créole qui déconstruit la carte postale de la Guadeloupe.
À peine 20 000 voix d'écart au premier tour présidentiel ultra serré en Équateur.
Qui oppose ce dimanche le président sortant, Daniel Noboa, et sa rivale de gauche, Luisa Gonzalez, candidate du parti de l'ancien président Rafael Correa. Lors du premier tour mi-février, le chef de l'État devançait d'une très courte tête sa rivale. 13 millions d'électeurs en Équateur donc qui doivent les départager ce dimanche. Dans un pays miné par la crise économique, mais aussi sécuritaire, l'Équateur devenu une véritable plaque tournante mondiale du trafic de cocaïne et en proie à une guerre des gangs, le pays qui affiche l'un des pires taux d'homicides du continent. Notre envoyé spécial Raphaël Morand s'est rendu à Guayaquil, épicentre du narcotrafic, où des habitants ont dû changer de quartier pour fuir la violence. Reportage.
Javier Moreira est travailleur social. Il accueille dans cette maison de la banlieue populaire de Guayaquil une dizaine de jeunes qui ont dû fuir leur quartier d'origine, Socio Vivienda, lorsque la guerre entre deux factions rivales d'un gang du narcotrafic a fait 22 morts en une seule journée. Evandro Moreno fait partie de ces déplacés.
Nous avons dû quitter le quartier après le massacre du 6 mars. Nous sommes partis le 7 au matin car la violence était vraiment insupportable.
Les organisations de droits de l'homme chiffrent à plus d'une centaine le nombre de familles, souvent afro-descendantes, qui ont quitté ce quartier par peur des fusillades, des extorsions ou par crainte que leurs enfants soient enrôlés de force dans des gangs. Mais une fois sortis du quartier, difficile de recommencer sa vie à cause du stigmate qui pèse sur ces familles.
On nous considère tous comme violents. C'est pesant d'être discriminé, de venir d'un quartier où il n'y a pas de transport, pas d'école et où on ne trouve pas de travail. Et une fois sortis du quartier, personne ne veut nous louer un logement car nous venons de Socio Vivienda.
Les organisations de défense des droits de l'homme attendent du nouveau gouvernement une reconnaissance du statut de déplacé et une aide au logement. Il y aurait des milliers de familles dans cette situation en Équateur. De retour de Guayaquil, Raphaël Morand, RFI.
Guayaquil où ont achevé leur campagne Daniel Noboa et Luisa Gonzalez ce jeudi. 7 des 24 provinces de l'Équateur qui sont en état d'urgence face à la violence des gangs. Les bureaux de vote qui ouvrent à midi, temps universel.
Des bureaux de vote qui ont fermé leurs portes hier soir au Gabon.
Et où les électeurs se sont massivement déplacés. 87% de participation selon le ministère de l'Intérieur, qui annonce des résultats à la mi-journée, aux alentours de 13h30, heure de Libreville. Ils étaient plus de 900 000 Gabonais appelés aux urnes pour départager les 8 candidats. Et contrairement au précédent scrutin, qui s'était déroulé dans un climat délétère, l'élection présidentielle de ce samedi s'est passée sans incident majeur, ce qu'ont apprécié les électeurs. François Mazet.
Dans la lignée d'une campagne écrasée par la force de frappe sans égale du chef de la transition, la journée électorale s'est déroulée dans le calme. C'était le premier succès selon ceux qui sont allés voter. Rompre avec les déchirures causées par chaque scrutin présidentiel dans un système électoral opaque. Les autorités avaient promis qu'il en serait autrement cette fois. Et à l'heure de glisser son bulletin dans l'urne de l'école pilote, Brice Clotaire Oligui Nguema réitérait son engagement pour la transparence, en même temps qu'il se disait très confiant. De sa ville de Makoku, son seul adversaire de poids, Alain-Claude Bilibinzé se déclarait serein tout en s'inquiétant de cartes d'électeurs non retirées et présentes dans les bureaux, un facteur potentiel de fraude, selon lui. Plusieurs candidats ont estimé que leurs représentants n'avaient pas eu accès à certains bureaux. Cela a aussi été le cas par endroit pour les observateurs, mais les plateformes de la société civile assurent que ces incidents ont été vite réglés. Les résultats provisoires globaux devraient être connus rapidement. Les candidats mécontents auront alors 8 jours pour saisir la Cour constitutionnelle. François Mazet, Libreville, RFI.
François ainsi que notre correspondant Yves-Laurent Goma que nous retrouvons tout au long de la journée pour nous faire vivre les résultats.
8 heures passées de 5 minutes à Gaza. La défense civile dénonce une frappe israélienne contre un hôpital.
L'hôpital Al-Ahli de Gazaville, le Hamas qui dénonce un nouveau crime de guerre. Les services d'urgence de l'établissement auraient été pris pour cible, forçant l'évacuation des patients et des blessés. L'hôpital qui avait déjà été frappé au début du mois d'octobre 2023, la frappe de l'État israélien qui avait alors fait des centaines de morts. Israël qui étend son offensive dans l'enclave palestinienne et qui contrôle désormais l'axe clé de Morag, un corridor séparant les villes de Rafah et de Ran Younes. L'armée israélienne qui a d'ailleurs appelé les dizaines de milliers d'habitants de Ran Younes à évacuer. Le moment est venu d'éliminer le Hamas, a assuré le ministre de la Défense de l'État hébreu Israël Katz.
Aux États-Unis, Martin, Donald Trump lâche du lest dans sa guerre commerciale face à la Chine.
Exempte finalement les smartphones de droits de douane. Il faut dire que le prix d'un iPhone aurait pu monter à plus de 3 500 $ l'unité pour le consommateur américain. Avec les barrières tarifaires en place, ce produit initialement frappé comme les autres d'une surtaxe faramineuse de 145% imposée par Donald Trump à la Chine. Les marchandises exonérées, smartphones, ordinateurs mais aussi puces électroniques qui représentent plus de 20% des importations américaines depuis la Chine.
Il est 7h passé de 6 minutes à Paris, comme à Belgrade, contre-manifestation hier en Serbie, en soutien au président en place.
Aleksandar Vučić a rassemblé ses soutiens à Belgrade, 55 000 personnes qui ont battu le pavé, selon le calcul d'un groupe de comptage indépendant. Chiffre largement inférieur à la manifestation étudiante de contestation à la mi-mars, environ 300 000 protestataires qui s'étaient alors réunis dans la capitale serbe, bousculés par la rue depuis le mois de novembre et le début du mouvement de contestation. Aleksandar Vučić, qui a voulu répondre, correspondance à Belgrade, Laurent Ruy.
C'est un rapport de force que le président serbe Aleksandar Vučić veut mettre en place après un meeting de soutien à sa personne à Belgrade qui a réuni 55 000 personnes. Pour le pouvoir qui est la cible d'un large mouvement de protestation contre la corruption menée par les étudiants, il fallait répondre à la manifestation du 15 mars, le plus grand rassemblement de l'histoire de Serbie, qui avait réuni plus de 300 000 personnes opposées au régime autocratique d'Aleksandar Vučić. Les supporters du président sont venus en bus de manière organisée et d'innombrables témoignages font état de paiements ou de contraintes pour mobiliser une partie d'entre eux. Mais le message est passé, Aleksandar Vučić est soutenu par une base nombreuse. Un peu partout dans le pays, des incidents mineurs ont éclaté, dont ont été victimes des journalistes ou des soutiens des étudiants. Ceux-ci ont organisé un grand rassemblement anti-corruption à Novi Pazar, au sud de la Serbie, tandis que 4 autres manifestations contre le pouvoir avaient lieu dans d'autres villes. Laurent Ruy, Belgrade. RFI.
Manifestation également, vous le disiez en titre Martin, en France pour défendre l'état de droit.
Une quarantaine de rassemblements dans tout le pays à l'appel d'associations et de syndicats pour répondre dans la rue à l'extrême droite, le Rassemblement National qui attaque frontalement la justice du pays et qui parle même de tyrannie des juges après la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. SOS Racisme ou encore la Ligue des Droits de l'Homme et la CGT qui avaient réuni leurs troupes, Place de la République, pour défendre donc l'état de droit. Mais pas de parti politique, Place de la République, où s'est rendu notre journaliste, Tanita Fallet, reportage.
Derrière la scène qui accueille discours et artistes, une banderole, menacer l'état de droit, c'est menacer la démocratie. C'est ce message qui a fait se déplacer Catherine, celui-ci et uniquement celui-ci.
J'ai pas voulu venir dimanche dernier parce qu'il y avait trop de mélange de manifs en même temps. Là, c'est qu'une seule cause et c'est celle-là que je voulais défendre aujourd'hui.
Car si quelques drapeaux de la France insoumise ou des écologistes flottent Place de la République, ce sont des syndicats, associations et organisations issues de la société civile qui sont à l'origine du rassemblement, un plus pour Manon.
Le fait que ce soit par des associations, je trouve ça aussi très cool, parce que ça permet de dire que c'est vraiment quelque chose qu'on affirme en dehors du côté partisan, et juste de dire voilà, l'état de droit c'est important, quel que soit le parti auquel on appartient.
L'état de droit n'est ni de droite ni de gauche, on sait qu'il n'est pas d'extrême droite, ça c'est sûr.
Dominique Sopo est président de SOS Racisme qui a co-organisé l'événement.
Mais c'est ni de droite ni de gauche, c'est un cadre de relation entre les gens qui est un des fondements de la démocratie, même si la démocratie nécessite plus que l'état de droit.
Et aujourd'hui, même si la manifestation n'était pas partisane, tous ont tenu à réaffirmer leur opposition à l'extrême droite.
Reportage de Tanita Fallet.
Lui aussi s'était exprimé sur le sujet. Il avait parlé de juge rouge au moment de la condamnation de Marine Le Pen. Bruno Retailleau se rend au Maroc.
Le ministre français de l'Intérieur offensif face au syndicat de la magistrature, mais beaucoup plus diplomate pour sa visite à Rabat, où il doit venir resserrer les liens entre la France et le Maroc pour cette visite de travail. Bruno Retailleau qui évoque par ailleurs un possible acte d'ingérence étrangère en France après l'arrestation d'un agent consulaire algérien accusé d'être impliqué dans l'enlèvement sur le sol français de l'influenceur algérien Amir Boukorsk. Alger qui proteste vivement contre cette détention et qui évoque une affaire inadmissible.
Une nouvelle réjouissante dans ce journal, c'est pour les baleines en Islande.
Qui vont pouvoir nager tranquillement pour la deuxième année consécutive. Pas de chasse à la baleine au large des côtes islandaises en 2025. Le Gvalur, seul baleinier actif dans le pays, qui va rester à quai. La pêche à la baleine interdite depuis 1986. Interdiction contournée depuis par le Japon, la Norvège et l'Islande. Les associations de défense des animaux marins qui s'en réjouissent, mais qui restent attentives. Sarah Yasmin Ziani.
Pour Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd, pas question de prendre la parole du baleinier islandais pour acquise. Les bateaux de l'ONG continueront de scruter leurs activités.
Nous serons en Irlande, à environ 900 km de Reykjavik. Et s'ils reviennent sur leur décision, eh bien on sera en capacité de les intercepter. On leur bloquera le passage. Pendant toutes ces années, on a sauvé des dizaines de milliers de baleines en faisant ça.
La chasse à la baleine n'a jamais été rentable, estime le militant.
Ça coûte près d'1 million d'euros de pertes à Valour chaque année. S'ils continuent à chasser les baleines, c'est parce qu'ils aiment ça.
Et pour cause, selon Paul Watson, il n'existe pas de vrai marché portuaire de la baleine.
En Islande, ils tuent des baleines pour les envoyer au Japon. Mais les Japonais ont leurs propres opérations de chasse côtière. Donc, ils n'ont pas besoin de la viande de baleine islandaise. Et puis 10% de la viande est pour les touristes de la capitale qui veulent en manger dans certains restaurants. Mais ce n'est qu'une petite partie.
L'Islande, le Japon et la Norvège sont les seuls pays qui pratiquent encore la chasse à la baleine. De quoi être optimiste, conclut Paul Watson, qui a déjà vu près de 90% de cette activité être éradiquée dans le monde.
Explication de Sarah Yasmin Ziani.
Allez, on termine au cinéma, Martin, où le film Zion fait un excellent départ.
Très bon démarrage pour ce premier long métrage du Guadeloupéen Nelson Foy. Zion qui fait un carton aux Antilles. Ce road movie qui nous mène dans les quartiers délaissés de Pointe-à-Pitre, qui a été produit par Jamel Debbouze et tourné en créole. Isabelle Chenu.
Zion est une plongée dans l'envers de la carte postale guadeloupéenne. Pas de plage ou de cocotiers, mais des cités délabrées sous le soleil, où la misère, la violence, le désœuvrement et les trafics en tout genre constituent le lot quotidien. Le réalisateur Nelson Foy emprunte au code des films d'action pour ce premier long-métrage rythmé où l'on suit sur sa moto un petit dealer de quartier qui un beau matin trouve un bébé dans un cabas devant sa porte. Course-poursuite, scène nocturne éclairée à la lumière des flammes, masque de carnaval, Zion est un film à l'esthétique recherchée et à la portée presque documentaire. Les problèmes qui gangrènent les Antilles servent de toile de fond, coupure d'eau, violence conjugale, père absent. La jeunesse s'y est retrouvée, ce qui explique l'engouement du public et des taux records de fréquentation des salles lors de sa sortie anticipée dans l'archipel fin mars. Le film a transformé l'essai lors de sa sortie dans l'Hexagone mercredi dernier, se situant dans les meilleures fréquentations de cette première semaine.
Et Zion, c'est donc en salle en France depuis mercredi. Une bonne sortie du dimanche pour votre après-midi Néma en Pisse.
Et peut-être après l'arrivée du marathon de Paris. 7h13 ici à Paris, c'était le journal de Martin Guèze. Merci Martin et à tout à l'heure. RFI Matin, c'est bel et bien parti. Nous sommes ensemble pour 3 heures. Tour complet de l'actualité internationale et africaine de ce dimanche 13 avril. Les premiers résultats provisoires de la présidentielle gabonaise attendus à la mi-journée. On parle de 13h30 heure de Libreville. On décroche les téléphones à tout instant pour joindre notre correspondant Yves-Laurent Goma et notre envoyé spécial François Mazet. Nous sommes au Rwanda également pour notre reportage Afrique où une entreprise délivre désormais par drone ce dont ont besoin et vite les vétérinaires et éleveurs du pays. Pierre Kaitana est le directeur de l'entreprise sur place.
Il va scanner le code QR sur le paquet, comme ça la drone sait où elle doit aller. Nos drones sont autonomes, c'est beaucoup d'intelligence artificielle aussi parce que quand la drone quitte Muhanga, ça doit arriver le plus tôt possible et au retour, ça doit faire des manœuvres pour se retrouver à la maison.
Le reportage Afrique de Lucie Mouillot a retrouvé aux alentours de 7h50 temps universel. On les appelle les Chégué en RDC, les Meninos d'Arua au Brésil. Ces enfants des rues, on s'intéresse à leur situation au lendemain de la journée internationale qui leur est consacrée. Nous appelons nos correspondantes à Kinshasa, à Rio, à Manille et à Mexico. Vos chroniques habituelles du dimanche à suivre également. Retour sur la visite d'Emmanuel Macron en Égypte avec Valérie Gas. L'Afrique en marche et Frédéric Gara au Burkina Faso à la découverte de deux jeunes entrepreneurs qui proposent des solutions au foyer en s'appuyant sur l'énergie solaire. Franck Alexandre nous parle de la modernisation de la guerre, les nouvelles technologies au service de la force, un phénomène qui prend de l'ampleur, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Bienvenue, bon réveil sur RFI. Tout de suite, c'est le reportage international. 8h15 à Mossoul, dans le nord de l'Irak. Là-bas, les derniers mois ont été largement consacrés à la reconstruction des bâtiments historiques. Et parmi eux, plusieurs églises détruites par l'État islamique, mais aussi lors de l'offensive pour libérer la ville. Seulement, leur seule reconstruction ne suffit pas pour leur redonner vie. On estime que 9 chrétiens sur 10 de la ville ne sont pas rentrés après la fin de la guerre contre le groupe terroriste. C'est un reportage de Marie-Charlotte Roupy.
Dans la vieille ville de Mossoul, le quartier chrétien historique n'en a plus que le nom. Mahmoud est propriétaire d'une échoppe ici, lui est sunnite, mais il regrette la vie du quartier avant l'arrivée de l'État islamique.
Leur maison était dans ce quartier-là. Avant, il y avait beaucoup de chrétiens, mais maintenant, ils sont très peu nombreux. Avant Daesh, la situation était très bonne ici. Les musulmans, avec les chrétiens, c'était une seule maison pour tous.
Seule une trentaine de familles chrétiennes seraient rentrées depuis la chute de l'État islamique. Elles étaient plus de 1200 avant 2014. Pourtant, depuis 6 ans, le patrimoine chrétien détruit se relève progressivement avec l'aide d'organisations internationales. Le père Najib Moussa Mikhaël, archevêque de Mossoul, y voit un espoir de faire revivre la communauté chrétienne.
C'est important de préparer un lieu avant que les gens viennent. Ce sont des symboles qui encouragent les gens à retourner et qui leur donnent la confiance.
Mais le père Najib est très conscient que la reconstruction de ces lieux de culte ne suffit pas.
Quand ils commencent à rentrer, ils n'ont plus d'emploi. Leur place a été occupée par d'autres. Donc aujourd'hui, c'est le travail du gouvernement d'avoir aussi la possibilité de vivre et aussi la reconstruction de leur maison. 80% des maisons des chrétiens sont par terre. Et donc, ils préfèrent de rester à Erbil ou à Duhok ou dans le nord. Au fait, c'est une question de confiance. Beaucoup de familles disent, tous les 10 ans, 20 ans, on recommence de nouveau à zéro.
Une partie de cette communauté a trouvé refuge à 80 km de Mossoul, à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Soucy est installée dans le quartier chrétien d'Ain Kawa. Elle a fui en 2013 un climat de violence qui ne cessait de se dégrader, selon elle, à la suite du renversement de Saddam Hussein.
À partir de 2003, beaucoup de pression était exercée contre les chrétiens. On était menacés. Et la violence a augmenté sous plein d'aspects. Il y avait des kidnappings, des meurtres et des menaces.
Pendant 10 ans, elle a porté le hijab à l'extérieur pour éviter d'attirer l'attention avant de tout abandonner juste avant l'entrée de l'État islamique dans Mossoul. Plus d'une décennie plus tard, elle ne veut toujours pas rentrer.
Il y a de la peur, il y a un manque de confiance, il y a la situation économique. Là, c'est sécurisé, les autres nous rassurent. Mais peut-être que cette mentalité ne va durer qu'un temps, mais qu'à la fin, rien n'aura changé.
Elle craint que les violences reprennent un jour, mais ajoute en souriant qu'une paix durable n'est pas complètement impossible. Marie-Charlotte Roupy, Bagdad, RFI.
Et vous réécoutez ce reportage à tout moment sur l'application RFI Pure Radio.
RFI à Paris, 89 FM.
Comme tous les dimanches sur RFI, votre chronique politique. Cette semaine, retour sur la visite d'Emmanuel Macron en Égypte. Valérie Gasse, la chef du service politique, a suivi le président français qui a alerté sur la crise humanitaire à Gaza, mais aussi mise en scène, d'une certaine manière, son amitié avec son homologue Abdel Fattah al-Sissi. Bref, Valérie, Emmanuel Macron a clairement joué la carte égyptienne.
Oui, Emmanuel Macron et Abdel Fattah al-Sissi ne se sont pratiquement pas quittés. Ils ont tout fait pour montrer leur complicité avec ces petites attentions qui font la différence et marque la volonté d'envoyer un message au-delà des déclarations officielles avec des images, celles de deux présidents sans cravate qui traversent le souk Khan el Khalili pour aller dîner dans un restaurant comme des amis, celles des deux mêmes dans une rame de métro du Caire assis côte à côte et parlant contrat à bâton rompu de manière enjouée, ou celle encore d'un privilège rare dont s'est enorgueilli l'Élysée du président Sissi qui accompagne Emmanuel Macron à El Arish, cette ville stratégique du Sinaï où est stockée l'aide humanitaire à destination de la population de la bande de Gaza.
Et parce qu'il faut le dire, cette visite avait surtout comme objectif de dénoncer le drame que vivent les habitants de la bande de Gaza.
C'était la priorité. Depuis des semaines, Emmanuel Macron était concentré sur la guerre en Ukraine. En se rendant en Égypte, il a voulu montrer qu'il ne renonçait pas à essayer de faire entendre sa voix sur le Proche-Orient aussi, et il a choisi l'option Sissi pour le faire. Le chef de l'État connaît bien le président égyptien qui est un interlocuteur clé dans la région. À travers lui, Emmanuel Macron a apporté son soutien soutien au plan arabe de reconstruction de Gaza et a dénoncé la situation de la population palestinienne, intenable selon lui, avec le blocus israélien qui empêche l'acheminement de l'aide humanitaire et prive les Gazaouis de nourriture et de soins.
Valérie, quel bilan peut-on tirer de cette visite ?
Des messages ont été passés. La France et l'Égypte sont des partenaires stratégiques. La France veut travailler avec les pays arabes. Elle ne renonce pas à trouver une solution politique à deux États après l'obtention d'un cessez-le-feu et envisage même de reconnaître l'État palestinien prochainement. Emmanuel Macron a essayé de montrer que la France avait un rôle à jouer, notamment pour plaider auprès des États-Unis. Le président de la République a d'ailleurs organisé durant son voyage un coup de téléphone à Donald Trump à Troyes avec le président égyptien et le roi de Jordanie. Et en quittant le président Sissi, il lui a glissé « Quand j'aurai un retour des États-Unis, je t'appellerai », comme pour lui dire « Compte sur moi et à bientôt ».
La chronique de Valérie Gasse, chef du service politique de Radio France Internationale. C'était il y a presque 200 ans, jour pour jour, le 17 avril 1825. La France, par la main du roi Charles X, faisait payer une dette colossale en échange de son indépendance, acquise pourtant 21 ans plus tôt par une révolution à Haïti. Mais alors, comment cet acte préfigure-t-il de la situation qu'Haïti traverse deux siècles plus tard ? Une question à laquelle tente de répondre le chercheur Frédéric Thomas dans son livre « Haïti, notre dette ». Il répond à Michael Ponge.
Bonjour Frédéric Thomas.
Bonjour.
Cette ordonnance, signée donc le 17 avril 1825, elle est présentée par le roi Charles X, alors à l'époque, comme le pacte le plus généreux. Comment est-ce qu'on passe, Frédéric Thomas, d'une victoire qui a été acquise par la lutte à une indépendance, et je reprends là vos mots, concédée par le pouvoir vaincu ?
Je pense que c'est une réécriture de l'histoire, du fait que Haïti, l'indépendance, Haïti n'est pas reconnue par la France, ni par aucun État dans le monde. Ça reste une aberration, ces anciens esclaves noirs qui arrivent à vaincre la plus grande puissance mondiale, alors la France, et à acquérir un État indépendant. Et par ailleurs, c'est la volonté de Charles X de revenir sur l'ensemble des acquis de la Révolution française et de la Révolution haïtienne, à défaut de pouvoir recoloniser Haïti, en tout cas mettre le pays sous la tutelle française. Et aussi de capter, de reconquérir, à défaut du pays, au moins l'économie haïtienne qui, au temps de la colonie, représentait la plus grande richesse coloniale de la France.
Cette dette, Frédéric Thomas, elle a été imposée par la force, mais elle a pu advenir aussi, et vous l'expliquez dans votre livre, parce que le gouvernement haïtien de l'époque en a été en quelque sorte complice. Le pacte, finalement, il a été conclu entre la France et une petite oligarchie haïtienne, au détriment du reste du peuple haïtien lui-même.
Oui, tout à fait. Donc, cette rançon, elle est imposée. Il y a un rapport de force. Mais cette force et cette domination, elle n'épuise pas les conditions de l'événement. Pour comprendre pourquoi, dans quelles conditions, le gouvernement haïtien accepte ce pacte, il faut reprendre le contexte où Haïti est complètement isolé sur la scène internationale, mais aussi par le fait que ce gouvernement se sent menacé par une paysannerie, les anciens esclaves, qui sont sur les terres et qui refusent de revenir dans les plantations et qui pèsent comme une menace sur ce gouvernement. Or, le gouvernement va trouver à travers ce pacte une manière de reconnaissance internationale, un lien avec la France et une manière d'imposer, de contrôler cette paysannerie qui va, elle, va payer cette dette. C'est pas le gouvernement haïtien, c'est essentiellement la paysannerie à travers les cultures de café qui va, au cours des décennies suivantes, rembourser cette dette.
Et c'est ainsi, Frédéric Thomas, que vous écrivez que 1825, eh bien, préfigure 2025, 200 ans plus tard. En fait, l'histoire du peuple haïtien lui-même, dites-vous, est toujours occultée au service des puissants et des puissances étrangères.
Oui, parce que je parle de 1825 comme d'un moment, comme d'un pacte néocolonial qui enferme Haïti dans un cycle de dépendance, de crise et d'ingérence, qui la place dans une position subordonnée sur la scène internationale et qui marque aussi un nœud entre l'élite haïtienne et les acteurs internationaux. Et donc, on continue à voir l'ensemble des experts continuent à reconnaître que l'un des principaux problèmes en Haïti, c'est la faiblesse des institutions publiques. Mais quel type d'État, quel type d'institution publique peuvent émerger et se développer dans une situation d'ingérence qui s'est cristallisée en 1825 et qui continue à marquer les relations néocoloniales dans lesquelles Haïti est piégé aujourd'hui.
Pour en revenir à l'histoire et terminer par là, Frédéric Thomas, 200 ans donc après l'imposition de cette dette, il faut, dites-vous, écrivez-vous, une réparation symbolique, matérielle. Est-ce qu'aujourd'hui, des signes vous font penser qu'on se dirige vers cela ou au contraire, pas du tout?
Mais les signes sont assez contradictoires. La question de cette dette, elle fait débat, elle fait l'objet de colloques au niveau de l'université. Le Volker Türk, qui est le haut commissaire des Nations Unies aux droits humains, a appuyé la demande d'une plateforme d'ONG haïtienne pour que la France s'engage dans cette réparation. Donc il y a tous ces facteurs-là qui sont plutôt positifs. Dans le même temps, on voit que du côté diplomatique français, on reste enfermé dans une logique de déresponsabilisation qui n'est pas très encourageante. Si je pouvais me tromper, tant mieux, si le 17 avril serait l'occasion d'une reconnaissance publique de l'État français, de sa responsabilité, de l'injustice occasionnée et de la volonté de s'engager dans une réparation, tant mieux. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, et les déclarations d'Emmanuel Macron traitant les Haïtiens de cons semblent aller dans un autre sens.
Frédéric Thomas, merci.
Frédéric Thomas, docteur en sciences politiques au CETRI, le Centre Continental à Louvain, en Belgique, auteur d'Haïti, Notre Dette. C'est à retrouver aux éditions Sileps. Allez, dans quelques minutes, le retour de l'actualité africaine. Avant cela, cette question que l'on se pose tous les dimanches, mais jusqu'où va la science? On se la pose avec Caroline Lachowski. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Caroline, on parle douleur et interjection universelle.
Aïe, aou, quand ça fait mal, c'est la voyelle A qui sort systématiquement de la bouche des humains, quelle que soit leur langue. C'est le constat de la chercheuse Maya Ponsonnet et de ses collègues de l'Université d'Australie-Occidentale, de l'Université Lumière à Lyon et de l'Université de Hong Kong, qui ont étudié les interjections de douleur, mais aussi de dégoût ou de joie, dans 131 langues différentes sur tous les continents. Résultat paru dans le journal de la Société Acoustique Américaine, en coréen, comme en sérère, en français, comme en langue aborigène d'Australie ou toupie d'Amérique centrale, on dit bien aïe, ou aouche, ou awa, ou akaï, ou aïou. Toujours des variations autour du A, qui correspond d'ailleurs aux cris poussés par tous les humains quand ils se font mal. Vous pouvez le vérifier si le cœur vous en dit. Quand la douleur est trop forte, on crie « Ah !» avant de dire « Aïe !». C'est ce qu'on appelle des vocalises non linguistiques qui pourraient bien être à l'origine du langage. C'est une hypothèse. Les humains auraient commencé par des vocalises « Ah !» qui deviennent des interjections « Aïe !» ou « Aouche !» ou « Acaille !» compréhensibles et partagées dans nos langues respectives par nos frères et sœurs humains.
Et Caroline, qu'en est-il des interjections qui expriment le dégoût ou la joie? Est-ce que là aussi, on peut parler de langage universel?
Pas vraiment. Notre burque de dégoût a évidemment des équivalents dans toutes les langues, mais aucune régularité comme les cherchent les linguistes. En revanche, pour exprimer la joie, même si c'est moins flagrant que pour le aïe de douleur, dans la majorité des 131 langues étudiées, Maya Ponsonnet et ses collègues ont mis en évidence la voyelle i, comme dans nos rires et nos sourires, surtout quand il y a de la surprise. Et c'est aussi ce qui ressort de cette étude comparative. Les émotions exprimées ont beau être aux antipodes, c'est dans l'expression et dans la manifestation de la surprise que nos interjections se ressemblent. Une douleur violente s'exprime par aïe ou aouche, une joie inattendue, youpi, hihi, en i, ce qui montre tout de même que nous pouvons partager nos émotions les plus fondamentales, nos douleurs et nos joies, dans toutes les langues et avec tous les locuteurs et locutrices du monde.
Jusqu'où va la science? Eh bien, on a des réponses chaque dimanche avec Caroline Lachowski. Merci Caroline. 7h29 ici à Paris. Dans une grosse minute, allez, le retour de l'actualité africaine, ce sera avec Sébastien Duhamel. Nous sommes au Gabon pour débuter ce journal. Au lendemain de l'élection présidentielle, on attend des premiers résultats provisoires à la mi-journée. On en parle avec notre correspondant, notre envoyé spécial même, François Mazet. À tout de suite.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Dans son film Oksana, Charlène Favier raconte la naissance du mouvement Femen à travers le combat pour la liberté, la démocratie et le féminisme d'une jeune Ukrainienne qui se présente comme réfugiée politique, artiste, activiste, sextrémiste. Du personnage, incarné par Albina Korsch, le film fait une véritable icône.
L'art de raconter le monde avec Jean-François Cadet, tout à l'heure à 18h41 sur RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Guinée, c'est une décision dénoncée par plusieurs partis politiques. Le référendum constitutionnel et les élections qui marqueront la fin de la transition ne seront pas organisées par la commission électorale, mais par le ministère de l'administration du territoire. On en parle.
Appel sur l'actualité, 33 9 693 693 70.
Juan Gomez, avec vous au téléphone lundi, à partir de 8h10 TU.
RFI.